Quoi?
Allez, bah bonjour, je me lance. Donc moi,
alors,
c'est...
qui es-tu?
Ouais, moi, je m'appelle Valérian et donc je suis de l'association WABAM, à l'initiative de ce projet qui rassemble 5 assos. Donc je vais passer la parole à mon collègue Jérémy.
Eh ben, c'est Jérémy aussi, voilà. De WABAM également. Du coup, voilà, l'initiative aussi du projet Quartier Libre.
Voilà, moi après c'est Louis, je fais partie de Système Décalé, donc nous on s'est greffé sur le projet un peu comme ça, par lien sur tour, et nous on sera plus sur la partie la scène alternative techno, voilà.
Et moi je suis Héloïse, je fais partie de l'association Autonome, une association étudiante de l'IUT de Tours, et je suis à l'initiative du projet au même titre que WABAM, et voilà.
Je t'ai remarqué que vous n'avez pas été très galant, messieurs, de parler avant.
C'est pas faux.
Alors, la galanterie, donc je fais un point technique, hein, la galanterie est sexiste.
Hein, la galanterie
dans cette ère de transformation des mœurs, pour moi, la galanterie n'a plus lieu d'être, voilà.
Merci Valérie.
Voilà, on va parler de ce festival, donc vous co-organisez le festival Quartier Libre, la première édition qui aura lieu sur l'île aux Cars. Alors l'an passé, à la même date, exactement la même date, et étrangement aussi le même lieu, il y avait un autre festival qui s'appelait La Chaudière, si je ne me trompe pas. Pourquoi, alors ma première question, c'est pourquoi avoir décidé d'organiser ce festival à la même date et sur l'île aux Cars?
Bah, si je peux me permettre, en fait, La Chaudière, c'est vraiment un autre collectif, c'est une autre orga. Et nous, si je rebondis sur WABAM, parce que du coup, j'ai une meilleure connaissance sur cette association-là, nous, on avait monté un festival le 10 octobre 2015 de souvenirs, donc on est dans ce même créneau-là, en fait. Et comme on a une empreinte au niveau du milieu étudiant, l'idée, c'était de s'inscrire là-dedans, quoi. Il y a la rentrée en septembre. Un mois après, on propose un festival qui s'adresse notamment aux étudiants. Donc ça avait cette cohérence-là. Après, le fait que La Chaudière ne reconduise pas son événement pour différentes raisons qu'on a pu, en avoir les échos, et c'est dommage, c'était un bel événement. Voilà, je pense que s'il y aurait eu La Chaudière, on ne se serait pas replacé sur ce créneau-là. Donc voilà.
Et il y avait aussi, par rapport à notre asso autonome, étant donné que les autres années précédentes, c'était le festival de la Gloriette qui se passait, l'année dernière, c'était passé dans cette période. Nous, on avait choisi cette date parce que fallait nous laisser le temps un petit peu de faire la rentrée. Et puis un mois, c'était, pour nous, ça nous semblait raisonnable. Et puis il y avait aussi le fait que y a la guinguette qui fermait le week-end d'avant. Donc,
ouais, on n'avait pas envie de faire concurrence à la guinguette et se mettre en opposition avec eux.
Étant donné qu'ils faisaient l'événement le week-end, on voulait leur laisser la place et puis nous faire l'événement par la suite.
Ouais. Et puis je pense que c'est aussi exactement le meilleur créneau par rapport aux autres événements. Enfin, il n'y a pas forcément beaucoup trop d'événements le 7 octobre. Et c'est aussi pour la rentrée étudiante, pour finaliser cette rentrée étudiante en fait. Festif.
Mais est-ce que c'est pas risqué justement parce que les étudiants viennent de rentrer? Est-ce que c'est le bon moment finalement pour faire un festival comme ça? Est-ce que c'est le bon moment de l'année?
Moi je pense que oui, parce que en tant qu'étudiante on a eu un mois pour rentrer et puis là on arrive à la période où il n'y a plus grand chose, et la majorité m'ont dit ouais mais qu'est-ce qu'on va faire, ouais mais là au moins on va clôturer l'été, on va aussi ouvrir la saison hivernale et d'automne, et moi je pense que c'est la bonne période parce qu'on a eu le temps de faire notre entrée et que maintenant, on laisse la place aux autres et justement, on donne une vision de ce qu'on peut faire à Tours et ce qui est possible pour les nouveaux arrivants à l'université.
Alors, vous avez à moitié répondu à ma question tout à l'heure. Pourquoi l'île aux Cars? Pourquoi ce lieu? Est-ce qu'il y a une raison particulière ou c'est parce que c'est un peu mythique, un peu historique? Je me permets de te couper, on t'a pas présenté.
Oui, je suis arrivé un petit peu au cours d'émission, je m'excuse d'ailleurs.
Voilà, et on a un nouvel invité et je vous laisse, chers auditeurs, entendre ce qu'il a à vous dire et surtout se présenter avant.
Julien de Nove Nove Cinco.
Donc, hein. Une des associations qui co-organise le festival. Il y en a 5, si je dis pas de bêtises.
Ouais, au total. Ouais, Autonome, la Gabar, le WABAM, Nove Nove Cinco et donc Radio Campus Tours également.
On y reviendra plus tard, effectivement, mais vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire?
Donc, par rapport à l'île au quart, effectivement, c'est une vraie question pertinente, mais je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a effectivement quelque chose d'historique par rapport au Tourangeau. Pour revenir un petit peu aussi, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas qu'aux étudiants non plus, hein. On s'adresse vraiment à l'ensemble de la population tourangelle. On est sur une amplitude qui est donc de 14h à 2h du matin, ce qui veut dire que même, enfin, toute l'après-midi, c'est ouvert même aux familles. On aura quand même des installs avec des jeux. On aura des débats qui seront vraiment toutes générations confondues, donc ça va au-delà du public étudiant, même si effectivement on pense qu'on cible peut-être plus ce public là et l'autre chose c'est quand même que ce lieu là il représente quelque chose d'assez unique sur le territoire urbain de Tours, puisqu'on est en cœur de ville. On est en cœur de, comment dire, on est vraiment placé au milieu du fleuve, la Loire. Hein, on est quand même sur un espace ligérien, donc ça, il y a une symbolique autour de ça aussi. On est en centre-ville et pour autant on est à l'extérieur. On est dans une espèce de territoire aquatique entre guillemets, donc ce qui emmène une forme de, comment dirais-je, d'esprit bucolique autour de tout ça. Et puis voilà, c'est accessible. Il y a aussi ça, faut pas qu'on oublie. Enfin là, c'est un festival. Toutes les personnes qui habitent sur le territoire urbain, bah, elles n'ont pas nécessairement à reprendre leur voiture derrière aussi. Il faut pas l'oublier. Ça, c'est pas un détail. Donc ça veut dire qu'on peut se lâcher autant qu'on veut, il y aura pas de souci autour de ça. Et puis encore une fois, cet emplacement il est extraordinaire. Donc d'ailleurs on peut que remercier les personnes avec qui on a travaillé pour obtenir ce lieu, qui à aucun moment nous ont mis des barrières dans les des bâtons dans les roues, et voilà, on sent qu'en plus de ça parle aussi aux acteurs culturels locaux. Donc voilà, ce choix il s'est fait un petit peu naturellement. On avait évoqué d'autres lieux au début et finalement on s'est tourné très naturellement vers l'île au quart.
Et ce sera du coup l'île au quart, ce sera le quartier libre de Tours. Et à ce moment-là, voilà. Le 7 octobre.
Bravo.
Tu as évoqué tout à l'heure brièvement ce qu'il va y avoir, des ateliers, etc. Comment ça va se dérouler samedi? Ça commence à 14h, c'est ça? Qu'est-ce qu'il va y avoir à côté avant les concerts, etc.?
Eh ben, écoute, on a une après-midi variée et éclectique en termes de propositions, parce que déjà on est cinq co-organisateurs et en plus on a des super partenaires comme les Décalés, Taïmal, Barbidule, enfin voilà, des assos assez actives sur leur terrain. Donc en fait, on arrive sur le festival. On aura déjà l'atelier Roulement à billes. Roulement à billes, c'est une association cyclo-militante qui est sur Tours et qui a toujours été très engagée sur la politique du vélo et donc ils font des super trucs. Là, en ce moment, ils ont plus de local. D'ailleurs, ils cherchent un local. Hein, donc toute proposition est bonne à prendre pour eux, je pense. Donc voilà, ils seront sur le festival. Ensuite, quand on continue un peu, on voit en fait trois quartiers se dessiner sur le site. Donc un quartier des enfants, piloté un peu par le Barbidule, avec une série d'animations qui sera proposée pour les enfants et les familles. On a le quartier nature avec Stéphane qui va bientôt arriver de la Gabarre. Donc là où on a un marché de producteurs locaux et des assos qui vont nous sensibiliser sur des thématiques environnementales du style le gaspillage alimentaire, la réduction des déchets, quel rapport on entretient avec la nature aujourd'hui. Donc voilà, vraiment un quartier axé nature. Et un autre quartier étudiant, où là on aura des assos étudiantes qui vont débattre autour des problématiques étudiantes. Et là notamment, la question qu'on va poser, c'est: y a-t-il un intérêt à s'engager dans mon université? Et l'idée, c'est que tous les acteurs qui seront présents vont rentrer dans une dynamique pour répondre à cette question-là. Donc ça va être intéressant aussi de regarder ça. Et si on va un peu plus loin, on a Player Up, qui sera un atelier ouvert de 16h à 22h sur le jeu vidéo et la réalité virtuelle. Donc là, pareil, des petits défis, les festivaliers seront invités à aller se défier, je sais pas, sur un Mario Bros avec un bandeau à l'aveugle, et puis il y aura des choses à gagner, des consos, des affiches, voilà, des petites choses. Et on aura quoi d'autre, on aura un super dôme géodésique où il y aura une série de spectacles et de conférences, et on aura le super car d'Icar avec pareil une programmation musicale assez dense dans ce car, où on pourra danser à l'intérieur du car et à l'extérieur du car. Donc voilà, deux pôles musicaux, on va dire dans l'après-midi, et un ensemble de quartiers avec plein d'animations et de spectacles. Donc voilà un peu en gros ce qu'on pourra retrouver, avec bien sûr un plateau mobile de Radio Campus. Peut-être que j'ai oublié quelque chose. Est-ce que mes partenaires identifient un truc que j'ai pu oublier? Non?
Je pense que...
Non, c'est pas mal.
Je pense que t'as tout dit.
Ok, super.
Très complet. Comment est née cette idée, ce projet, et pourquoi vous associez ensemble? Alors, je précise avant, on a un nouvel invité. Je vous l'avais dit, il y a beaucoup d'invités aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter? Parce que moi-même, je ne te connais pas.
Bonjour. Alors, salut, moi c'est Alexis. Donc, je représente Time Up Project, donc une association qui là va être en partenariat avec les systèmes décalés sur le Dôme pour promouvoir les musiques électroniques. Nous, on promeut principalement la trance et la goa. Et à côté de ça aussi, les spectacles type cirque. Voilà.
Voilà, alors du coup... Ah, il y a un autre invité aussi qui est à deux doigts d'avoir un nouveau micro.
On est nombreux.
On est nombreux. Alors, qui j'accueille? Qui j'ai le plaisir d'accueillir?
Bonjour à tous. Moi, je fais partie de l'association Les Planches à Gabar, qui s'occupe de la monnaie locale en Touraine. Et du coup, là, on va faire à la fois sur ce festival la fête de notre anniversaire, un marché local de producteurs, et la monnaie locale sera la monnaie du festival. Donc là, ça va être c'est un gros truc pour nous. Ouais.
Alors maintenant que vous êtes tous réunis, je vous pose la question que j'ai posée un peu avant. Pourquoi vous réunir ensemble? Pourquoi co-organiser, vous, association, ça ensemble? Et comment est née l'idée, en fait, de ce festival?
Je me permets de prendre la parole. Je pense que ce que je vais répondre va être à compléter par mes collègues autour de la table. Alors, la naissance du projet, le souvenir que j'en ai, après vous m'arrêtez hein, si c'est pas ça, mais c'était un jour, on était Valérian ici présent, Stéphane et je sais plus si t'étais là, Héloïse aussi ou pas. Non, c'était après. Donc voilà, donc il y avait au moins Valérian et Stéphane, peut-être Jérémy.
Je crois aussi.
Ouais, je crois aussi. Voilà, on était donc dans un petit endroit intéressant de Tours où il y avait une jolie terrasse. Et Valérian avait organisé une rencontre interassociative. Et il s'avère qu'on s'est mis à discuter comme ça d'un projet en se disant bah voilà, ça serait quand même pas mal qu'on puisse bosser ensemble. Ça faisait quelques temps quand même que dans les couloirs de campus et à première vue, ce qui pouvait se dire aussi du côté du WABAM, que ça pourrait être intéressant qu'on monte un événement culturel ensemble, et avec cette idée de festival. Stéphane nous apprend que ça correspond aussi au premier anniversaire de la Gabar, donc on se dit bah peut-être qu'on peut essayer de créer quelque chose. Donc ça, c'était en février dernier, et puis voilà, c'était resté au terme de la discussion ce soir-là, et puis il s'avère qu'en fait très rapidement les rouages ont commencé à s'enclencher, à se déclencher en tout cas, et puis bah voilà, aujourd'hui de tout ça est né cet événement. C'est un petit peu il y a eu beaucoup d'investissements de la part de beaucoup de gens. Il y a eu une symbiose qui s'est réellement créée, je trouve, autour des 5 associations organisatrices. Et pourquoi plusieurs? Pourquoi créer un collectif? C'est parce que finalement, c'est plus on est, plus on est fort. Hein, tout ça, ça peut paraître complètement bateau ce que je suis en train de dire, mais nous on l'a vérifié parce que c'est vraiment une masse de travail énorme. Je pense qu'une seule des associations qui est présente sur l'organisation n'aurait pas pu assumer tout ça, parce que encore une fois c'est un gros événement. Il y a un nombre de choses incalculables à gérer. On se retrouve tous avec des missions qui sont pas nécessairement plus des missions qui nous parlent à nous, mais le fait d'être tous ensemble, ça a permis justement de créer une synergie et donc de rendre les choses faisables. Et au-delà de ça, je pense que 5 associations comme celle-ci, qui sont des associations culturelles, démontrent aussi que sur le territoire tourangeau, on peut s'associer en tant qu'acteurs culturels, tous, et monter ce type d'événement qui, au début, on va pas, enfin, en tout cas, je parle en ma parole, paraissait quelque chose d'insurmontable.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de se mettre à plusieurs, autant, qui n'est pas justement quelqu'un qui ne joue pas forcément le jeu ou qui... Est-ce que c'est pas un risque aussi de se mettre à 5 pour organiser un événement comme ça?
Alors moi je voudrais, si je puis intervenir, c'était par rapport au fait que nous, notre association, on avait décidé au départ de créer un événement seul en tant qu'autonome, et le nommer autonome. Et c'est en faisant la présentation du festival que WABAM nous a contactés pour faire un partenariat et faire justement un événement commun, étant donné qu'on voulait faire à 2 événements à une semaine de décalage en fait. Et en fait, on a voté et on a décidé de vous rejoindre et avec grand plaisir. Et c'était le grand risque au départ qu'on s'était demandé, c'était qu'on était étant donné qu'on était 5 assos. Enfin, il y a énormément de décideurs, donc beaucoup de choses qu'on ne sait pas forcément en tant que personne et qui nous échappent. Et ça, il y a eu des couacs à des moments, mais après voilà, on a réussi et on est en bon chemin. Et maintenant, il reste plus que 4 jours. ça...
Non, mais oui, comme tu dis, en fait, c'est toute la difficulté, c'est la coordination de 5 associations, quoi. Déjà, il faut réussir à créer une dynamique positive dans chacune des associations, et on sait la difficulté déjà que c'est de créer une dynamique positive dans une association. Donc, quand on a 5 associations qui se rallient autour d'un projet commun, il faut réussir à créer une nouvelle dynamique qui surplombe ces 5 associations. Et je pense qu'on n'en est pas loin. Comme dit Héloïse, il y a toujours quelques manques de communication à des moments, c'est toujours la difficulté dans les associations. Mais là, moi j'ai l'impression, en ayant un peu une vision globale du projet, qu'on n'est pas trop mal, quoi. Et qu'on a réussi un challenge qui, comme disait au départ Julien, était un peu insurmontable. Et puis, j'ai l'impression qu'on arrive à cocher toutes les cases. Donc c'est plutôt pas mal, en fait. Voilà.
Je me permets une petite intervention encore, ce qu'il oublie de dire, alors, c'est que c'est lui qui coordonne tout. Donc voilà, c'est lui le monsieur en fait qui crée les forces vives autour des 5 associations. Beaucoup, Jérémy est très actif aussi, Héloïse aussi, Emma qu'on peut citer, Stéphane aussi ici présent, mais monsieur a le rôle de coordinateur. Donc voilà, je le dis à sa place parce que c'est un homme humble.
Ouais. Alors il y a une question, moi c'est un peu ma question fétiche, pourquoi avoir choisi ce nom finalement de festival Quartier Libre? Est-ce que vous êtes mis tous d'accord? Est-ce qu'il y a eu un vote? Comment ça s'est passé pour choisir ce nom-là?
Alors c'était une belle petite soirée qui s'annonçait... Quartier Libre, c'est venu comment? C'est Emma. Venu par Emma. On devait choisir un nom au bout d'un moment parce que c'était bien beau de faire un festival et du coup on voulait l'appeler au début le festival des convergences. Enfin, on avait un... Le fait de dire convergence, c'était le fait de tous se regrouper ensemble, etc. Et puis on s'est dit qu'il faudrait trouver peut-être un nom un peu plus mignon.
Il y avait déjà Convergence Bio qui existait aussi.
Convergence Bio qui existait. Du coup, le fait d'être à 4, alors ouais, 4 sans, en mettant en place du coup Nove Nove Chinko et Radio Campus, du coup ça faisait 4 et on disait quartier pour 4 et libre parce qu'on avait envie de faire un événement aussi. Voilà, qui est sur beaucoup de thématiques, mais du coup, une liberté de thématique, une liberté de quartier, qui ne soit pas des quartiers cloisonnés, mais bien des quartiers libres, justement. Donc voilà, et puis le nom correspondait bien avec nos attentes, avec du coup nos valeurs et ce qu'on voulait programmer. Voilà, en gros, donc c'est sorti ouais, un peu comme ça. Mais
ça sonne bien, ce soir, les gens, c'est quartier libre à Tours,
c'est
tu vois.
Ouais, c'est ça,
bon, il y a un petit côté caserne, militaire, tu vois. on est un peu, il y en a beaucoup d'entre nous qui sont dans le milieu social, et donc on va pas dire qu'on est des pros armés, hein. Mais c'est justement aussi détourner un peu ce terme-là et dire c'est quartier libre, on s'amuse un peu ce soir et on propose un truc chouette, quoi.
Comme on va dire aussi aux enfants, c'est parti, c'est quartier libre.
Le festival, il va durer une seule journée. Pourquoi avoir fait une journée? Est-ce que c'est déjà difficile d'organiser une seule journée ou il y avait déjà à la base une volonté de faire plus long?
Non, en vrai, je pense que avec Wabam, on avait déjà fait déjà 2 éditions. Le fait de rester sur une journée, c'est quand même un travail qui est assez corsé. Et c'était aussi notre envie avec les 5 associations de rester sur une seule journée, puisqu'il y a quand même beaucoup de taf et que du coup c'est aussi le fait d'être au mois d'octobre, c'est pas une saison aussi simple qu'on pourrait croire, qu'on pourrait même voir sur du coup juillet-août où normalement il devrait faire beau. Là, octobre, il peut faire froid, il peut faire mauvais. Du coup, on s'est dit, une seule journée, ça pourrait être quand même pas mal. Et le fait aussi de faire une après-midi, pas qu'une simple soirée, ça joue. Dans le sens où on aurait pu faire 2 soirs avec une programmation vraiment plutôt culturelle, mais c'était pas du tout notre envie. Notre envie, c'était aussi de faire un événement aussi pluridisciplinaire avec du coup des quartiers sur voilà, l'environnement, comme disait Valérian, l'environnement, les étudiants et j'en oublie un, enfin bref. Et du coup l'idée, c'était de, ouais, voilà, de faire sur une seule journée, c'était, mais une journée complète. Voilà. Mais
c'est ta question est intéressante parce qu'on s'est effectivement fait interroger sur l'appellation festival. Ça veut dire, on nous a dit, bah, c'est qu'une seule journée, comment ça se fait, pourquoi vous appelez ça festival alors que ça se déroule que sur une seule journée. Alors il y a deux choses, je pense. Déjà, la première, c'est qu'il y a déjà eu un événement quand même vendredi dernier. Donc ça veut dire qu'on est quand même sur deux temps différents. Ce qu'on a appelé les préliminaires de Quartier Libre qui a eu lieu donc à la maison des étudiants du site Gramont vendredi dernier. Il y a une préchauffe jeudi prochain aussi à l'Hurricanes, si je dis pas de bêtises. Ouais, donc voilà, organisée par Taïma et par les décalés. Donc et il y a cette amplitude horaire. Donc déjà on est sur trois dates différentes, même si si on peut considérer ça comme étant des événements périphériques, mais en fait ils sont intimement liés à Quartier Libre, puisqu'ils ont tous les deux l'appellation Quartier Libre. Donc déjà le fait d'avoir trois dates identifiées peut permettre d'utiliser cette appellation festival. Et comme le disait Jérémy, on est quand même sur une amplitude horaire qui est assez volumineuse. Hein, ça fait 12 heures d'amplitude horaire, ce qui est quand même pas mal. On a un line-up avec 5 têtes d'affiche. Donc soirée-concert, 5 têtes d'affiche, je trouve que ça fait beaucoup pour une soirée-concert, pour l'appellation soirée-concert. Sur le site, on propose une grande variété de choses, et on propose aussi deux autres lieux musicaux, hein, avec donc les décalés et avec Nove Nove Cinco dans le bus d'Icar. Et c'est là que je pense qu'il y a vraiment que l'appellation festival, elle correspond, même si sur la durée, c'est vrai qu'on est plus habitué à se dire, bah, un festival, c'est au moins deux soirées, c'est trois soirées, c'est sur un week-end entier. Et ben, peut-être qu'on n'est pas pile poil dans le schéma qu'on se fait, ou en tout cas dans l'image qu'on se fait d'une manière générale de ce qu'est un festival, mais dans le déroulement des faits, dans ce qui est proposé, on est réellement sur un festival.
Oui, et puis c'est surtout que question organisation, enfin c'était déjà hyper compliqué de faire une journée jusqu'à 2h du matin. Les moyens humains n'étaient pas forcément là, tous réunis. Et puis même, comme on disait, vu que c'est la rentrée, les gens viennent d'arriver, ils n'ont pas forcément envie de s'investir sur deux jours, surtout au début d'année. Et voilà, enfin c'était déjà assez compliqué comme ça.
Et puis qui sait si les choses font qu'on peut réitérer cet événement-là dans les années qui viennent, voilà, qui sait comment les choses se développeront aussi. Mais en tout cas, je pense que ouais, là, encore une fois, l'appellation festival, elle correspond vraiment à ce qu'on propose.
Et c'est une première édition.
Faut pas l'oublier, c'est une première édition. Ouais.
Alors en revanche, un petit mot et après on fait une première pause musicale. Vous êtes quand même dépendant, tu l'as dit tout à l'heure Jérémy, de la météo. Est-ce que vous avez regardé quel temps il va faire samedi?
Il fait beau.
Merci aux agriculteurs.
Donc on a croisé les doigts et ça a marché.
Alors un gros soleil prévu et nuit douce, nuit sans pluie aussi. En tout cas c'est ce qui est prévu à 3 jours du festival. Donc on est sûr à 200% que c'est comme ça que ça va se passer.
Il y a 3 jours il devait pleuvoir, mais là j'ai regardé, il n'est pas censé pleuvoir.
Et puis au pire des cas, on a un énorme chapiteau. Enfin, au pire des cas, il y a un chapiteau qui est énorme, où on peut accueillir des centaines de personnes. Voilà, donc,
Le lieu est confiné aussi. Ouais, le lieu est confiné. Ouais, il y a plusieurs bâtiments. On a un dôme, un chapiteau, plusieurs choses qui permettent aussi de. Voilà, c'est plus petit.
On a un bus,
Premièrement, la question est de savoir, pour mettre les pieds dans le plat tout de suite, combien coûte ce genre d'événement et comment on le finance ?
Ça coûte. Ah bon. Je sais pas si je dois détailler le budget prévisionnel de ce genre de manifestation, mais tu posais la question pourquoi pas deux jours tout à l'heure, parce que c'est quasiment deux fois plus cher aussi, quoi, le temps de location de toutes les structures, tout ça. Donc c'est aussi une des raisons de se baser sur une journée, une soirée. Donc voilà, pour toute la technique et le côté artistique, on avoisine les 20 000 euros, hein, voilà. Et puis après pour le reste, on peut doubler, donc tu fais le calcul de tête, comme ça je l'aurais pas dit, et on est sur quand même un investissement qui est assez important sur le plan financier, et heureusement qu'on a des partenaires
qui mettent un peu la main à la poche, et l'université en premier lieu, hein. C'est clair que sans l'université, nous n'aurions pas pu porter une telle manifestation. Déjà, ça, il faut le dire, donc merci à eux. Le CROUS qui nous aide financièrement et qui relaie en termes de communication. Donc voilà, donc ça, c'est des partenaires un peu institutionnels autour de l'université, qui gravitent autour de l'université. En ce qui est de d'autres partenaires, on a quand même le syndicat Touraine Propre aussi qui a mis la main à la poche parce qu'on est dans une démarche zéro déchet sur le festival et que y a quand même pas mal de choses qui sont prévues à cet effet. Notamment le compostage des matières organiques, le recyclage des mégots, bon après le classique éco-cup, etc. Mais voilà, on est dans cette démarche-là. Donc le syndicat Touraine Propre, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est issu de Tours Métropole. Enfin, en tout cas, ils sont en lien très étroit avec Tours Métropole. Et il faut savoir que tous les contribuables, en fait, qui sont dans l'agglo, payent une petite somme. Et cette somme accumulée est une subvention à destination de ce type d'initiative, que ce soit porté par des collectivités, des associations, etc. Autre partenaire important, il faut que je cite la SMECO quand même, qui c'est, on attend la réponse qui va être positive a priori, mais voilà, SMECO aussi qui gravite autour du monde étudiant et qui nous soutient aussi dans nos logiques de prévention, secours, sécurité, et donc qui met aussi la main à la pâte. Et donc partenaire plus avec des subventions indirectes, on va remercier la ville et le département hein, qui nous donnent du matériel et qui là, bah, du coup c'est pareil, sans eux, si on n'a pas leur aval, notamment la mise à disposition gratuite de l'Ilocar avec du matériel, ça représente des frais, donc merci à eux. Donc voilà, au niveau des partenaires, je pense que j'ai fait le tour. Et puis on va remercier toutes les associations qui nous donnent des petits coups de main qu'on ne cite pas assez, mais voilà, il y en a pas mal, elles sont sur l'affiche, vous les retrouverez dans le bandeau en bas. Elles nous donnent tous des petits coups de main matériels généralement et bénévoles aussi. Voilà.
Alors justement, je me permets de revenir sur l'une d'entre elles, puisqu'il s'agit d'une association Notre-Dame de Persaigne du Mans, c'est ça, qui est partenaire, en tout cas qui est annoncée sur votre site. Pourquoi
Ah c'est bon, tu cites...
Ça te fait rigoler.
C'était ouais, le... Ça me fait marrer.
S'il fallait
non,
passer.
On va faire de la pub pour les copains. Ouais, et en même temps, c'est hyper atypique parce que, si tu veux, dans le collectif initial, je parle pour Wabam et aussi pour le Barbidule, on va faire un salut à Floriane Chabal.
Léa aussi.
Et Léa, mais qui... Ouais. Léa n'est pas dans Notre-Dame de Persaigne. Et donc, Floriane, en fait, si vous voulez, elle nous donne un gros coup de main aussi sur le festival. Et comme elle travaille à Notre-Dame de Persaigne et qu'ils ont aussi monté un autre festival qui s'appelle Ribouledingue et qu'ils ont lancé leur première édition, il y a toujours de l'échange de matériel entre ces deux associations-là, notamment des plateaux scéniques, de la déco, ce genre de choses. Et donc voilà, la forme du partenariat Notre-Dame de Persaigne qui pouvait te poser question, c'est ça.
Et c'est un des premiers lieux d'éducation populaire, voilà. Enfin, je pense que ça a précisé aussi depuis 1900 et des brouettes,
ouais, ouais.
23 peut-être,
ouais.
Voilà.
Pour, bon, on s'en plaint pas évidemment, on est aussi partenaire Radio Campus Tours et aussi partenaire du projet, mais la question est de savoir pourquoi s'associer à une radio jeune, vous qui dites ne pas vouloir vous orienter que vers la jeunesse et vers un plus large public.
Mais... Et il faut resituer en fait le contexte d'émergence du projet. Comme Julien l'a très bien dit tout à l'heure, en fait, il y a eu une rencontre au court-circuit qui a été fait en tout début d'année. Et donc en fait Radio Campus sur le plan événementiel avait une volonté de faire émerger ce type de projet et donc n'est pas partenaire mais co-organisateur. et à partir de ce moment-là, bah, le fait qu'on ait une empreinte étudiante, que vous êtes une des associations les plus structurées avec un salarié, avec des volontaires en service civique, il y avait vraiment du sens à s'associer ensemble pour mutualiser nos forces et faire quelque chose d'encore plus grand. Voilà, c'était vraiment la volonté et c'est pour ça aussi que l'association Carrière Sociale via le collectif autonome nous ont rejoint après, ce qui fait quand même trois associations étudiantes qui se mobilisent ensemble pour un événement commun.
Et puis je pense qu'il faut pas se le cacher non plus, en vrai ça fait déjà 3 ans que Wabam du coup fait une émission aussi sur Radio Campus. Avec le Wabam Cocktail, je fais une petite publicité aussi, mais avec Loan et Mathilde, ça fait déjà 3 ans qu'on est ici à Radio Campus, et du coup, c'est vrai que derrière les, enfin derrière cette antenne, eh ben il y a des choses qui s'y passent également, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, l'idée de s'associer à monter des événements ensemble, puisque Wabam monte des événements à l'année aussi sur des bars et donc un festival, du coup c'était une logique que entre deux associations étudiantes aussi ça puisse collaborer ensemble pour un événement comme celui-ci.
Et puis moi je me permets de réagir aussi au fait que je reviens encore, mais je représente ma génération, c'est pour ça. je crois que Campus effectivement est peut-être affilié comme étant plutôt un média jeune, mais je crois qu'on reste sur un média radiophonique, et que finalement la population qui est à l'écoute de Radio Campus, on sait pas trop. Peut-être que effectivement de par l'appellation, de par le nom de Campus, on peut se dire que c'est plus vers les étudiants, mais je pense que le panel entre guillemets d'auditrices et d'auditeurs, il est bien plus large que le monde étudiant. Et d'ailleurs on peut le voir hein, quand on discute de Radio Campus Tour, il y a aussi des quarantenaires, des cinquantenaires, des adolescents, effectivement, des étudiants, des trentenaires qui sont à l'écoute de ce média. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, je pense que faut qu'on fasse attention à ne pas se cloisonner sur une tranche d'âge particulière qui serait visée par cet événement-là. Je ne veux pas rappeler ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais il y a une telle proposition de choses qu'on peut aller bien au-delà du monde étudiant.
Le volet financier aussi du festival, c'est pas que les partenaires, c'est aussi la monnaie locale, la Gabar. Je me tourne vers Stéphane qui est arrivé un peu en cours de route, en cours d'émission. Stéphane, bonjour. Est-ce que tu peux déjà te présenter et présenter la Gabar ?
Rebonjour du coup.
Rebonjour.
La Gabar, c'est une monnaie locale complémentaire et citoyenne, comme il en existe plus d'une trentaine en circulation sur différents bassins de vie en France. On l'a lancée en Touraine l'année dernière, le 17 septembre 2016. Et on était relativement proche de Wabam, et c'est pour ça qu'en discutant, on s'était dit, nous on aimerait bien faire une fête anniversaire assez sympathique. Sauf qu'on a bien vu lors de l'événement de lancement que toute la partie culturelle, programmation, etc., c'était difficile à gérer, en plus de toute la logistique qui va avec une monnaie locale. Ça, je pourrais y revenir. Donc s'associer pour faire un événement tous ensemble, c'était une idée juste super géniale. Et puis du coup ça fait un événement multidisciplinaire avec en cible plusieurs publics, c'est vraiment génial. Alors du coup, la monnaie locale, c'est quoi ? C'est un moyen de communiquer sur le fait que chacun, on peut un petit peu changer les choses localement à partir du moment où on utilise un outil qui est comme un pense-bête, une béquille pour nous dire, on a envie de privilégier le local, ce qui est produit dans des conditions éthiques, bien aussi pour le corps, hein, quand on parle d'alimentation. Cet outil, la monnaie locale, ça permet d'en parler, et ça permet aussi de se souvenir de ses choix. Et du coup, il y a tout un réseau de professionnels sur le territoire. Là, on a dépassé les 250 points d'acceptation de la monnaie locale comme moyen de paiement, qui acceptent cette monnaie locale. Et toutes les personnes qui ont envie de l'utiliser vont dans un comptoir d'échange. Là, on a ouvert le 9e comptoir fixe à Chinon le week-end dernier. Et échange des euros contre des gabars. Les gabars sont utilisables comme un moyen de paiement dans les commerces et autres, sur les marchés, auprès des professionnels affiliés. Et les euros collectés par l'association, eux, ils sont d'abord la garantie de la valeur de la monnaie locale en circulation, mais ils vont aussi, avec des partenaires, être, et ça c'est très positif, c'est ce qui est génial dans une monnaie locale, potentiellement être utilisé pour financer sous forme de prêt des projets porteurs de sens sur le territoire qui ne seraient pas financés classiquement par les banques. Donc du coup, il y a toute une démarche de local, de comment est-ce qu'on fait lien sur le territoire, comment est-ce qu'on développe les choses qui font sens également avec tout l'aspect transition et écologie. Donc voilà, c'est un petit peu ça la monnaie locale.
Quel intérêt pour un festival comme Quartier Libre d'insérer une monnaie locale ? Est-ce que c'est par souci de transparence ou de facilité par rapport au spectateur qui vient ?
Bah, là, comme je l'ai dit à l'instant, c'était plus une rencontre qui a fait qu'on fait le festival ensemble. Au final, faut vraiment voir ça comme ça. Il n'y avait pas de volonté de faire spécifiquement la transparence par rapport à ça. Je me souviens l'année dernière, Wabam a testé une monnaie Wabam sur le festival. Là, finalement, avec l'Agabar, on fournit toute la logistique pour la monnaie festival sur un gros festival. Donc, potentiellement, on se retrouve aussi là-dessus.
Non, et puis vraiment, ça met du sens d'utiliser une monnaie locale complémentaire sur un festival comme ça, parce que, comme le dit Stéphane, on a testé ce qu'on appelle les tickets, quoi. Les tickets festival, donc c'est une monnaie locale éphémère qui n'a de valeur que, on va dire, de 14h à 2h si le festival a lieu de 14h à 2h. Et cette monnaie, en fait, si tu sors du festival et que t'en as 10 en poche, et bah c'est perdu, parce qu'en fait, tu peux plus la convertir sur le lieu du festival. Donc, c'est pas lié à cette difficulté-là en se disant, bah ouais, mais imagine, tu repars et t'as 5 gabarres en poche, bah tu les as pas perdus. En fait, tu vas te renseigner davantage et c'est un outil de communication en plus pour la gabarre que finalement, bah qu'est-ce que je vais faire de ces gabarres? Je vais aller les dépenser chez des prestataires qui ont adhéré à la charte éthique et qui du coup pratiquent la gabarre. Donc ça, ça faisait vraiment sens. Et puis au-delà de ça, comme l'a dit Stéphane, c'est un avantage logistique parce que c'est des experts de la monnaie. Et du coup, des experts de la monnaie sur un festival, c'est pratique.
Oui, puis il y a deux dimensions par rapport à ça. Il y a à la fois la possibilité pour les personnes sur le festival qui n'auraient pas dépensé toute leur monnaie festival de repartir et d'avoir 250 points où on accepte la gabarre en moyen de paiement. Mais aussi autre chose, c'est que la gabarre, c'est une monnaie à date de validité restreinte. Hein. La fréquence là, et depuis la dernière assemblée générale, c'est 12 mois. Mais bon, on récupère la prochaine date de fin de validité des billets, ce sera le 30 avril 2019. Donc il y aura le temps pour les dépenser. Sauf que la date actuelle, c'est le 30 octobre 2017. Donc fin du mois. Le festival, c'est aussi l'occasion d'appeler tous les gens qui utilisent la gabarre et de leur dire, si vous avez des gabarres en poche, c'est peut-être l'occasion de venir, de vous amuser, il y a un festival, on l'organise aussi un petit peu, on le co-organise aussi un petit peu pour vous, avec un marché de producteurs locaux. Donc du coup, il y a les deux dimensions, il y a ceux qui en ont déjà, qui vont potentiellement être attirés par le festival et possibilité d'utiliser leur gabarre qui vont arriver en fin de validité, et les autres qui pourront partir avec le festival, avec quand même un moyen de paiement utilisable. Et juste une petite précision, quand je dis de fin de validité, les gabarres qui ne sont plus valides, on peut les remettre en validité avec un petit timbre. C'est juste pour éviter que les gens aient peur d'avoir des choses qui ne valent plus rien.
Et j'ai envie de faire une petite aparté historique, je ne sais pas si je peux et si on a le temps. Est-ce que vous validez?
Ouais. Allez, on valide.
Parce que la monnaie locale, souvent, on questionne son utilité. Parce que mine de rien, pour les prestataires, des fois, ça peut faire une double comptabilité ou ouais. Peut-être que ça complique un peu la chose. Je fais de mauvaise com pour la gabarre.
Non, en comptabilité, non, mais... c'est vrai qu'ils ils rendent ça comme des euros. Donc au final, ça... ouais. C'est juste une démarche. Oui, je veux dire, rien que faire la démarche, c'est vrai que ça leur prend du temps.
Ouais. Mais voilà, mais que ça a du sens, si on regarde un peu l'histoire, alors tu me reprends Stéphane, je crois qu'on a lu un peu les mêmes bouquins, notamment Au cœur de la monnaie de Bernard Litter,
ouais, tout à fait.
Qui est un des fondateurs de l'écu, donc le prédécesseur de l'euro en Europe, et qui écrivait justement que l'âge d'or un peu qu'on a vécu dans nos civilisations, notamment au 12e, 13e, où en fait il y avait le temps des cathédrales, où finalement les gens construisaient, il y avait une dynamique au niveau des constructions, il y avait une activité vraiment énorme, c'est le moment où il y avait deux monnaies qui circulaient en parallèle. Une monnaie qui était centralisée, qui était contrôlée, on pourrait la comparer à l'euro aujourd'hui, une monnaie un peu longue distance, quoi, qui pour les longs commerces, enfin, etc. Et une monnaie beaucoup plus locale. Mmh. Et là, c'était généralement de la fonte ou tu vois, de la poterie, quoi, tu vois, de la petite monnaie. Mais en fait, la monnaie n'a de sens que si on lui donne une confiance.
C'est ça. La monnaie, à la base, c'est un contrat social. C'est, on décide comment est-ce qu'on échange les choses ensemble. Et la monnaie locale, il y a cette dimension-là. C'est comment est-ce qu'un collectif de citoyens monté en association décide de mettre en place un moyen de paiement avec des règles différentes du moyen de paiement qui nous semble être le seul qui circule. Et comme tu le disais, à cette époque, cet âge d'or, il n'y avait pas de chômage à cette époque-là.
Ah, du coup, c'est
une actualité. Il y avait des abbayes. Ben non, mais justement, à cause de l'activité, parce qu'il y a pas, on nous dit qu'on ne peut pas y avoir d'activité parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais l'argent, en fait, c'est qu'une convention. Donc, à l'époque, c'est vrai qu'il y avait des abbayes, des petits. Euh, euh, des, les seniors qui frappaient leur monnaie et qui du coup disaient bah, écoutez, je veux bien vous embaucher pour faire ça, j'ai besoin de vous pour ce travail là, sauf que je peux vous payer qu'avec cette monnaie et par contre elle est valable pour que vous puissiez vous loger, bouffer autour et ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça marchait.
Et donc la monnaie locale complémentaire vient de cet héritage là où finalement elle n'a de valeur que sur un territoire et elle est fondante, elle perd de l'argent au cours du temps pour éviter qu'on l'accumule et qu'on la thésaurise, qu'on fasse de la spéculation avec. Et ça c'est vraiment un débat de société. On avait envie sur le festival aussi d'amener ce débat-là et de questionner les gens par rapport à leur rapport à l'argent. Voilà.
Et pour casser juste la dimension médiévale, on pourra aussi parler de tout ce qui est monnaie numérique, Bitcoin et autres, parce que potentiellement, la monnaie locale, le papier, c'est génial parce que du coup, on a quelque chose en main, on peut en parler, on peut le montrer, mais on s'interroge beaucoup sur le côté digital et moyen de paiement digital, mais pareil, avec une autre façon de faire que simplement la carte bleue qui déshumanise les échanges.
Et juste pour finir.
Pour finir ce fabuleux cours de théorie économique, franchement.
Non, on n'est pas rentré dans le dur, là.
Il y a un mot qui a été utilisé plusieurs fois par Stéphane et par Valérian, là, dans cette réponse, qui est le mot local. Et je crois que si on se ramène au festival, si on ramène ça au festival, c'est aussi un peu ce qu'on veut valoriser. Je pense que la présence de la Gabar prend tout son sens au travers de ça, parce que si on regarde bien, en fait, le programme, le line-up et tout ce qui est proposé sur le festival, mis à part trois noms qui font partie donc des têtes d'affiche sous le grand chapiteau, sinon c'est que des locaux, c'est que des artistes locaux, c'est que des compagnies locales, c'est que des artisans locaux, c'est que des assos locaux, c'est que des partenaires locaux. Est-ce que l'idée quand même, enfin l'ossature de ce projet quand on a commencé à en parler, c'était de valoriser la scène locale et de valoriser les démarches locales, et je crois qu'on est vraiment dedans à 200% sauf si on enlève Smokey John the Kid et French 79, parce que même Mong, ils ont des accroches en Touraine. Et voilà, donc on est aussi vraiment là-dedans. Enfin, on en reparlera peut-être quand on va discuter de l'esprit du festival. Mais il y a aussi cette idée-là, quoi. Et je pense que la Gabar, le fait qu'on utilise la monnaie locale pour les échanges au sein de ce territoire, qui va être un micro-territoire finalement le 7 octobre, ça a tout son sens sur ce qu'on veut aussi valoriser, défendre et mettre en avant.
Je vais laisser la parole à Samuel qui va leur poser quelques questions sur la programmation notamment. Samuel, c'est à toi.
Yes, on va se pencher plus sur la programmation de cette journée. Déjà, comment vous avez établi le contenu, on va dire, est-ce que ça a été quelque chose de collégial, est-ce que ça a été beaucoup le réseau aussi, peut-être les amis, parce qu'on parlait du local aussi tout à l'heure pour la construction de ce festival. Alors je sais pas qui veut répondre.
On y va à deux.
Yeah,
allez, on y va à deux.
On fait du ping-pong,
man.
Juste deux tonnes.
Ouais, allez, t'es prêt? Vas-y, serre.
Vas-y, c'est parti.
Je serre.
Vas-y,
serre. Pour commencer, en fait, parce qu'on a, il y a eu une grosse évolution sur la prog, en fait, entre ce qui s'était dit au tout début et ce qu'on a aujourd'hui, qui est hyper plaisant. Franchement, je pense que c'était compliqué d'avoir un line-up plus agréable que celui qu'on a là. Mais c'est vrai qu'à la base, on s'était dit on va faire que des groupes locaux. Ça a évolué, on allait vers la scène régionale, puis la scène nationale. On avait commencé à se dire, ouais, peut-être qu'on va faire... Après, je ne suis pas objectif quand j'évoque ça, mais je me rappelle avoir tenu un discours dans ce sens-là, quand on disait, ouais, on va faire un événement tropical, on n'amène que de l'afrobeat, que de la cumbia, etc.
Ça me surprend, toi, ça. Mais...
bizarre, hein.
D'où le perroquet, d'ailleurs.
Et puis, je pense que j'étais un petit peu dictatorial là-dessus. Et c'est très bien qu'on soit sur d'autres choses. Et voilà, d'ailleurs, il y aura du tropical.
Ah oui.
Il y en aura. Et donc, voilà, au fur et à mesure, on a égrené les différentes possibilités, ce qui existait en local, ce qui parlait à tout le monde, parce que c'est aussi ça. On évoquait donc certaines difficultés qui peuvent être liées à la co-organisation, le fait qu'il y ait cinq associations ou cinq organisateurs, en tout cas, il faut aussi que ça parle à tout le monde. C'est ce qui est très intéressant, puisque ça amène aussi à une certaine forme de recul par rapport à ce qu'on pense, nous, tout seul.
Et puis, un budget aussi derrière, aussi à tenir.
Quel coup droit,
en fonction de l'artiste qu'on va prendre aussi, quoi. Enfin, on peut pas se permettre du coup de prendre un Moby ou un U2.
Est-ce que ça nous intéresserait vraiment?
Non, je pense pas.
Moby, ouais, voilà.
Moby,
ouais. Ouais, ouais, les gars, Moby, c'est cramé.
On imagine les réunions de programmation comme ça, là, un
on
peu.
On pourra faire une si on veut. Ouais, on pourra faire des réunions de programmation à l'antenne, je pense.
Ouais.
Mais du coup, on était quand même beaucoup à quand même. C'était quand même à la fois tout d'abord collégial, enfin dans le sens où il y a des propositions d'un peu tout le monde, et aussi par rapport au réel, c'est-à-dire bah, combien coûte tel ou tel artiste. Ça a été un travail qui a été assez plaisant, je trouve. Pour qu'on l'ait fait, enfin, c'était agréable d'avoir des nouveaux noms qui tombent à l'oreille, d'écouter, de se dire ouais ça c'est pas mal, ça c'est cool, mais est-ce que ça ça parle aux gens, est-ce que ça ça parle pas aux gens, enfin pas mal de choses qui bah du coup qui nous ont posé des questions et qui bah du coup on a quand même privilégié le local tout d'abord, et par la suite en cherchant des têtes un peu plus voilà nationales on va dire. Comme Smokey Joe and the Kid et French 79, les deux. Je sais pas pour Smokey Joe, je sais pas comment expliquer. C'était un groupe qui nous plaisait et qui était dans une vibe un petit peu justement festif, donc électro hip hop. Sachant qu'on respectait aussi, parce que du coup Julien fait aussi partie de du coup Radio Campus et de Nove Nove Cinco, et du coup on respecte aussi le côté hip-hop, enfin la programmation aussi de Radio Campus. Du coup on voulait vraiment axer un peu là-dessus, et Smokey Joe and the Kid, je trouve que c'était un petit peu la voilà l'image même du de je sais pas, enfin de ce festival qui enfin pour nous ça semblait logique en fait d'avoir ce type de groupe qui ouais. ressemble beaucoup à Chinese Man
pointu mais qui parle à tout le monde quoi.
Voilà, c'est ça. Et qui s'inscrit dans une comment dire dans une dimension un petit peu de compromis au niveau musical. Ça veut dire qu'on n'est pas non plus encore, on n'est pas sur la musique industrielle, on n'est pas sur sur la grosse machine, et en même temps comme tu le dis ça parle à beaucoup de monde, donc c'est des artistes qui sont hyper respectables et qu'en tout cas nous on respecte vraiment beaucoup, et voilà. Et après alors je sais pas, j'enchaîne sur le fait, qu'est-ce qu'on fait justement si on parle plus de la globalité de la programmation, il y a quelque chose qui est assez intéressant qui finalement se retrouve dans le line-up, qui est que et ce qui n'était pas du tout l'idée à la base, hein, c'est que finalement la ligne directrice, la ligne en tout cas ou le lien entre chacun des groupes, c'est que on est sur l'électro.
Ouais.
Voilà. Et on est sur, mais on est sur l'électro dans sa diversité. C'est ça qui est intéressant. On n'est pas sur de la, à part peut-être French 79 ou 79, je sais pas comment on dit, qui est vraiment électro pur. Sinon, là, on propose vraiment un panel électro qui est hyper intéressant et où la musique instrumentale, je vais dire, voilà, dans le sens acoustique, enfin dans le sens où on est sur des vrais instruments, n'est pas mise de côté non plus, puisque avec Mong on a des instruments plus très particuliers. Chez Perroquet on a
côté trad,
complètement, ouais. Perroquet avec un gros clavier de ouf qui tue tout, big up.
Très tropical.
Très tropical.
Comme
voilà,
dans Chico,
exactement, hein. Exactement. J'imagine bien qu'avec EDG, on va avoir des coups de mélodica. Hein. Il y a des chances qu'on a un petit peu de ça.
Et s'ils font leur dernier album, justement, d'ODG.
Ouais. Bah, c'est un petit peu aussi une des surprises ou une des exclusivités qu'on va avoir sur ce festival. C'est ouais. que c'est la première fois qu'ODG va jouer son prochain album. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont jamais joué encore. Il devait sortir le 6 octobre, finalement, la date est repoussée. Mais il s'avère que la première scène sur laquelle ils vont le jouer, ça va être c'est sur la scène nous. Du quartier libre. Quoi. Donc ça, c'est chouette aussi. Et on n'en avait pas à le parler avec les personnes d'ODG, justement. Et c'est vrai que ça leur parlait beaucoup qu'on fasse ça comme ça. Donc voilà. Après, peut-être que Jeremy peut plus rentrer dans les détails de la prog, parce que c'est lui qui a beaucoup bossé dessus. Voilà. Et puis, ouais. Et je me permets juste la petite parenthèse, un gros big up à Loan et à Mathilde aussi dans le lien avec les artistes voilà
qui ont repris justement qui ont repris un peu du coup le travail qui a été fait en amont pour que nous on puisse aussi travailler sur aussi d'autres pôles. Enfin, c'est vrai qu'on est à la fois sur différents pôles et du coup on change un petit peu à chaque fois. Et du coup French French 79, ouais, vas-y.
En fait, avant d'aborder vraiment la programmation ouais. musicale du soir, parce que voilà, on a le temps, on est sur Radio Campus.
Ah ouais, c'est vrai. Ah, pardon.
Du coup, je voulais d'abord évoquer voilà quelque chose qui va parler aux auditeurs et qui va permettre de mieux comprendre un peu comment vous avez organisé le festival. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs espaces où il va y avoir ouais. une programmation culturelle. Donc déjà, on peut peut-être démarrer par ça en
par
nous expliquer. Voilà, déjà, il va y avoir le chapiteau qui va être dédié au soir. soir. Je crois qu'il y a une scène qui s'appelle Dôme aussi, qui va jouer l'après-midi et le soir avec donc les gars qui sont là aussi, ouais. Dont on va parler après. D'abord, peut-être nous resituer les lieux. Carrément. Et ce qui va s'y passer et à quel public on va parler aussi.
Eh ben, on va commencer directement par l'après-midi, en fait, tout simplement, puisqu'on va quand même avoir... du coup, ce qu'on disait, le marché local sur un quartier du coup environnement qui va être sur place. On peut parler des conférences, la conférence zéro déchet qui est aussi sur ce quartier environnement. On peut parler également de quartier des étudiants avec également du coup des donc un quartier des étudiants qui va être sur des problématiques. On en a déjà parlé tout à l'heure. Et en termes de programmation pure, je vois les gars qui me boostent en mode... Ah, et du coup, par exemple, ouais, la compagnie Sans Issue...
Il faut te recentrer des fois.
Ouais, je sais, pardon. La compagnie Sans Issue qui du coup va faire un spectacle exclusif, inédit.
Ouais. Ils seront 10.
Ils seront 10.
C'est un 7, medley. 10. Là, c'est un medley de tous leurs spectacles autour du fakir un peu détourné, ouais. Autour des acrobaties, autour d'un mât et de la musique. Donc là, ils nous préparent une exclue spéciale pour le festival, liée à un imprévu. Hein, donc des fois, c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est pas mal. Hein. La compagnie Sans Issue, on va découvrir ce qu'ils nous proposent. Et puis, toi, tu voulais peut-être parler du bus d'Icar qui démarre à 14h. Et qui finit à 2h du matin, et le Dôme qui démarre à 20h et qui termine à 2h du matin. Ça va être les deux pôles son, vraiment au-delà des spectacles, qu'on va découvrir en continu. Donc peut-être Julien plus sur le bus, et tu peux, et après je pense les décaler et Taïma.
Sachant que sur la scène Dôme, on démarre dès 14h avec justement la compagnie Sans Issue et des spectacles qui, eux, pour le coup, s'adressent à tout public, en fait. C'est, non ? Enfin, je sais pas. Dites-nous.
Ouais, ouais, attends, j'ai pas compris tes questions.
les spectacles, en fait, ouais. Des compagnies de l'après-midi, donc de 14 à 18h, c'est des spectacles qui vont parler à tout le monde.
Oui, ah oui, c'est tout public. C'est des spectacles, justement, tout public, qui même, du coup, tout public et à la fois aussi pour les enfants. Comme je pense à la compagnie Num, avec le guitariste de Zenzile qui sera également présent sur le festival. Du coup, une compagnie, la compagnie Num, la compagnie Sans Issue, donc double spectacle durant l'après-midi, en même temps que ce qui va se passer
oui,
autour.
Il y aura tout un tas d'animations,
Il
y aura des conférences, il y aura des... Enfin, après le quartier étudiant, y a Autonome qui gère ce quartier-là et on essaie d'organiser tout un tas d'animations. On a énormément de bénévoles qui veulent mettre la main à la pâte.
Ouais, je t'en prie, si tu veux nous parler des animations que vous allez proposer, je t'en prie.
Bah après, on a différents pôles en fait. Il y a on a organisé aussi de la prévention. Donc ça, c'est mes collègues qui l'organisent. Donc en fait, ça sera des animations autour des préventions auditives, autour des préventions par rapport à l'IST, aux risques de drogue et tout ça. Il y aura après de tout. Il y a le quartier... prévention, il y a nature aussi. On organise, oui, ça c'était d'autres de mes collègues qui l'organisent. Après, là, c'est pas encore fini, elles sont en train de gérer le truc, mais après, il y aura des animations, il y aura des jeux en bois, il y aura encore beaucoup de choses à créer, et je sais pas encore exactement comment on va le disposer sur le festival, mais c'est en bonne voie.
Les jeux en bois de Bricanote, justement, oui. Qui seront du coup sur le quartier des enfants avec du coup la compagnie
Barbidule.
Num et du coup Barbidule qui va s'occuper vraiment du quartier des enfants. C'est-à-dire qu'on a aussi des associations qui vont être là en tant que référent d'un quartier également, comme là je pense au Barbidule, et qui aura aussi Passe-moi le cirque qui sera sur ce même, le même spot. J'oublie également quartier des enfants, Barbidule, du coup jeu en bois du Bricanote et Player Up, du coup qui va être sur on en a parlé je crois tout à l'heure, mais qui va être sur tout ce qui est jeux vidéo et sensibilisation réalité virtuelle.
On reste vraiment dans cette, voilà. Excuse-moi je te coupe Samuel, mais on reste vraiment sur cette idée de multidisciplinarité, ça se dit comme ça,
pluridisciplinaire,
ouais, mais multidiscipline en tout cas, voilà, ouais. Et donc on reste vraiment là-dessus quoi, du cirque au théâtre en passant par la musique, parce qu'il y aura aussi justement de la musique dans l'après-midi, avec donc à partir de 14h dans le bus d'Icar, Nove Nove Simco qui propose que du DJ set, hein, ça sera que du DJ set, mais voilà un line-up qu'on espère assez riche, puisqu'on va essayer de... On va essayer de décliner des choses autour de différentes musicalités, puisqu'on aura, je le décline maintenant tant qu'à faire, ou est-ce qu'on y rentre plus tard
Bah, en fait, je voulais, avant de décliner, je voulais vous demander justement pourquoi ce choix de faire un événement pluridisciplinaire.
Ah, parce que l'art n'est pas unique.
Ah,
ok, prochaine question.
Là, on a la chance d'être dans une ville, d'être sur un territoire où il y a vraiment une multiple proposition artistique. Ça veut dire qu'on dit toujours Tours, c'est une grande ville de musique. Voilà, il y a vraiment, avec ces chiffres où il y a le plus de groupes par rapport à la population, etc. Alors, effectivement, on est une ville qui est très riche musicalement, mais pas que. Il y a du théâtre, il y a du théâtre de rue qui est vraiment de très haut niveau. Ouais. On a des circassiens qui assurent à fond aussi. Je crois que c'était hyper important aussi que ces disciplines-là, que ces arts-là soient présents. Si on veut être dans la promotion, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais la promotion de la scène locale. La scène locale, c'est pas uniquement de la musique. La scène artistique, elle se limite pas à la musique. Elle va aussi vers ces collectifs, ces structures qui sont dans des démarches, qui sont actives, qui proposent des choses originales et en plus de très bonne qualité. Voilà, l'idée, c'est justement de pas se cloisonner sur une seule discipline qui aurait pu être la musique. Peut-être que là-dessus, on n'a pas choisi la facilité, mais en même temps, ça nous semblait juste évident qu'on aille aussi vers ça. Et puis, je crois que c'est un petit peu le parcours de chacun et le bagage de chaque personne qui était à l'organisation qui a fait qu'on allait vers ça.
On a chacun nos avis, on a chacun nos goûts, et on a tous voulu mettre quelque chose qu'on aimait dans ce festival qui nous tenait à cœur. Et c'est pour... Enfin, moi, je vois dans mon association, il y en a plusieurs qui préféraient le théâtre ou la musique et tout ça. Et c'est pareil, on s'est rejoint par rapport à ça et c'est ça qui nous plaisait, quoi.
Et sur les deux éditions du WABAM également, on avait toujours proposé cette multitude de disciplines. Et pour nous, c'était encore logique de rester là-dessus et pas que cloisonner. Justement, encore ce mot cloisonner qu'on n'arrête pas d'utiliser, mais c'est pour éviter aussi de se cloisonner même sur la discipline musicale que de Tours, malgré tout.
Ouais, et puis c'est aussi pour montrer l'ensemble des ressources qu'on a sur le territoire, quoi. Quand on est nouvel étudiant, on arrive sur Tours, vas-y, qu'est-ce que je fais, j'ai envie de jongler, où je vais, j'ai envie d'aller voir un film, où je vais, j'ai envie de faire ça, où je vais. Et là la pluridisciplinarité, elle prend du sens à partir de là, quoi. On essaye de montrer l'ensemble de ce qu'il y a à Tours en mobilisant tous les copains, en fait, qui sont dans les différentes assos, quoi.
Ouais, et puis ça rejoint évidemment le public auquel vous vous adressez, qui lui aussi est multiple, en fait. Ouais.
Exactement.
Oui, c'est ça.
Parce que là, c'est de faciliter la rencontre entre les étudiants et le grand public. Je t'ai coupé la parole, Héloïse, je suis désolé. mais ouais, ça, c'est un des objectifs majeurs du festival, quoi. Faire découvrir les ressources pour le territoire, enfin, les ressources qu'on a sur le territoire, et aussi faciliter la rencontre entre les familles et les étudiants, quoi. Parce que souvent, on vit dans des cases, dans des catégorisations et tout, ce genre de choses. Donc, on essaie de sortir de ça et de s'ouvrir.
Ok, très bien. Bon, du coup, maintenant, on peut commencer un peu peut-être à gratter sur la programmation musicale. Donc, Julien, tu étais parti à nous dévoiler un petit peu ce que vous nous avez concocté du côté du bus Icar. Parce que c'est pareil, ça, spécificité, c'est quelque chose que vous avez dû réfléchir. Voilà, on met une scène avec une très belle programmation musicale, mais vous avez pensé à ceux qui ne seront pas forcément contentés ou gâtés par tous les artistes. Et donc, vous proposez d'autres espace sur le site. On peut en parler aussi peut-être pour resituer aussi
Bah, bien sûr. L'idée, c'est exactement ce que tu disais. Ça veut dire que sur des programmations comme celle-ci, où tu as 5 noms qui proposent des musiques différentes, des sonorités différentes, et ben parfois il peut y avoir un des 5 qui va pas parler à une partie du public. Et l'idée de proposer des scènes alternatives, entre guillemets, on va appeler ça comme ça, c'est aussi pouvoir satisfaire la personne qui vient pour la musique et qui se dit ça, je kiffe pas trop, je vais aller voir ce qui se passe là, je vais aller voir ce qui se passe là. C'est un peu aussi une forme, je crois, de richesse qu'on propose, entre guillemets.
Un éclectisme,
exactement. Musical. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que ces deux scènes alternatives, elles ont chacune leur identité. On propose pas du tout la même chose, que ce soit du côté du Dôme des Décalés ou que ce soit du côté du bus d'Icar avec Nove Nove Simco. Donc moi, je vais parler de ce qui me concerne plus, c'est-à-dire Nove Nove Simco et ce qui va se passer dans le bus d'Icar.
Ouais, on parlera de la scène Dôme juste après.
Juste après, ouais. Et donc nous on a pris le parti de proposer uniquement des DJ sets. Alors, il y aura peut-être un petit peu de live, il y aura peut-être des MC qui viendront
en tout cas,
et des toasters quoi, ouais. Et qui viendront un petit peu sur certaines sélections, mais en gros, on va décliner les choses avec on va avoir 5 acteurs différents. On aura Mektoub, c'est un collectif hip-hop, mais là ils viennent en formation DJ set, donc ils seront deux. Ils vont proposer hip-hop, funk et un petit peu de ce qu'on appelle la world music. Ensuite on aura Midnight Selecta qui sera là aussi pour nous balancer les sélections hip-hop et funk. On aura également Milo Firetone, qui est bien connu des ondes de campus pour son émission Sweat from the Yard, qui viendra lui pour des sélections dancehall reggae, et justement il sera peut-être accompagné lui de toaster. Donc voilà. Ensuite on aura les entraîneurs. Donc les entraîneurs, c'est un petit collectif qui propose plutôt funk 80.
Français,
mais c'est alors ça peut faire peur comme ça, parce que moi j'ai vu autour de moi, ouais, ça fait un peu peur, mais en fait non, c'est juste super chiadé ce qu'ils font, c'est pas prétentieux, et c'est juste que ça envoie du son sur lequel t'as envie de danser, et puis il y a des morceaux dont tu connais les paroles, donc c'est bien, c'est festif quoi, ouais. C'est plutôt cool. Et il y aura Crossover aussi qui proposera donc des sélections tropicales, exclusivement tropicales, exclusivement sur vinyle. Donc on jouera malheureusement pas tous sur vinyle, on aurait bien aimé à la base proposer uniquement ça, mais tout le monde ne joue pas sur vinyle, donc il y aura Crossover, et je crois bien que Midnight Selecta aussi jouera peut-être sur vinyle. Donc voilà, il y aura deux passages de Mektoub. Enfin, en tout cas, Mektoub, Milo Firetone et Midnight Selecta feront deux passages dans l'après-midi et ensuite en soirée. Et donc on commencera les hostilités à 14h. Donc de 14h jusqu'à 22h30, on aura du non-stop. 22h30, 23h15, il y aura une petite pause parce qu'il y a un spectacle qui a lieu. Et ensuite, à partir de 23h30 jusqu'à 1h45, voire 2h du matin, on rebalance des DJ sets comme ça. Et ce qui est un petit peu original aussi dans ce qu'on propose, c'est que donc les diffuseurs de son seront à l'intérieur du bus où le public peut venir. Donc ça veut dire qu'il y a un petit dance floor dans le bus, donc c'est très marrant. C'était peut-être que des personnes sont allées sur Terre du Son cet été, certaines auditrices, certains auditeurs, et c'est ce qui avait été mis en place. Et puis on aura un petit dance floor aussi à côté du bus, hein, si jamais on est gavé de monde et que tout le monde ne peut pas rentrer dans le bus, voilà, ça sera ça l'idée un petit peu. Et donc on remercie vivement les copains d'Icar aussi, hein, voilà, qui viennent avec le bus, et c'est super bien. Voilà.
Ça veut dire que le son sera à la fois à l'intérieur et à l'extérieur ?
Exactement, ouais. Ouais, il y aura du son à l'intérieur et à l'extérieur.
Ok.
Voilà.
Donc ça fera partie des endroits où voilà, on pourra déjà aller danser dès 14h.
Ouais. Exactement, ouais. C'est un peu l'idée, puisque de 14 à 18, en gros, 14 à 19, même si je ne dis pas de bêtises, le son il émanera uniquement du bus. Donc, mais c'est un peu ça l'idée aussi, c'est justement qu'il y ait de la musique toute la journée, et puis que le fait de ne pas proposer de scène dans la journée, c'est un parti pris aussi, hein, dans le sens où il y a un marché local qui est là, l'idée c'est plus d'aller là-dessus, sur les conférences, sur les petits spectacles, et en même temps qu'il y ait du son. Et puis si t'as envie de danser dès 14h05, tu peux venir danser dès 14h05, voilà.
Yes, on a les gars qui sont à côté de nous, donc c'est Clément et Arthur, si je dis pas de bêtises.
Oh, non, Alexis,
Alexis. Prenez un micro les gars, parce que du coup sinon on va pas vous entendre. Peut-être nous parler un petit peu. Alors déjà, vous avez l'air d'avoir bossé ensemble sur le projet, sur ce lieu, la scène Dôme. Mmh. Expliquez-nous un petit peu comment vous êtes arrivé sur le projet et qu'est-ce que vous avez prévu en fait pour le public samedi.
Alors nous, à la base, c'était donc une autre personne de notre association qui connaissait des membres de WABAM. Donc de là, il y a eu l'invitation pour justement être partenaire pour gérer le Dôme. Nous, on connaissait aussi les décalés, donc ça a créé tout un cercle. On a déjà travaillé avec les décalés sur une soirée en février. On s'est dit, ça a bien marché, on va recommencer. Et voilà, on en arrive du coup à retravailler là-dessus tous ensemble pour amener du coup là une scène qui va être principalement techno. Donc les décalés vont être principalement techno avec un peu de trance aussi. Et nous, par contre, du côté de Taïma, ça va être exclusivement de la trance et de la goa, comme je disais tout à l'heure, qui est le credo de notre association.
Ok, c'est la musique électronique qui est l'objet de vos associations.
Ouais. Voilà, c'est
ouais,
ça tout
ouais,
à fait.
C'est ça. Nous, à la base du système décalé, ça a 3 ans à peu près.
Taïma, c'est un peu plus récent. Et du coup, on avait fait une soirée bon, l'année dernière. C'est vrai que ça avait super bien marché. On s'était bien rencontrés. Donc, se retrouver sur ce projet-là par la suite dans un festival, c'est plutôt cool. Et ouais, du coup, par rapport à la programmation nous, qu'on a, c'est vrai que ça va être peut-être plus... plus pour un public averti vis-à-vis de la musique électronique, vis-à-vis de la musique techno que chez les collègues de Nove Nove Shinko, où ça va être quand même vachement plus, du coup, bah, tu disais tout à l'heure, Julien, tropical, etc. Donc du coup, quand même directement festif dansant. Nous, c'est vrai qu'on va avoir une programmation, alors je vais mettre des guillemets, un peu plus underground, si on veut. Donc voilà, les Taïma qui sont quand même plus sur un côté trans, Goa, et nous qui sommes un peu plus sur un truc techno, mais du coup beaucoup plus, on va dire, lié à la rave, lié à la teuf, et du coup un programme un peu plus on va dire, dur, je sais pas, non ?
Bon, pas forcément dur, mais c'est aussi pour les gens qui sont pas forcément avertis, découvrent ce milieu musical, qui on n'entend pas tout le temps non plus dans tout genre de soirée. Donc c'est pour ouvrir un petit peu le style techno qu'on trouve aussi dans Live Party, à des personnes qui n'ont pas l'habitude d'y aller.
Ouais, là aussi, il faut faire voir un petit peu que vous n'êtes pas méchant et que vous allez manger personne.
Tout à fait, exactement.
Pas des méchants, non.
Est-ce qu'il y aura une décoration de prévu ? Est-ce que vous pouvez nous parler en fait de la scène, tout simplement ? À quoi ça va ressembler ?
Bon, en fait, on ne sait pas trop encore nous-mêmes, je pense, à quoi ça va ressembler exactement. L'idée, c'était de recréer un peu les ambiances qu'on avait déjà, du coup, qu'on a déjà créées à la dernière soirée. Donc, c'est très... comment dire, c'est très lumineux, fluorescent, on
très
va dire.
Psychédélique, très psychédélique, en général, c'est, ouais. De toute façon, c'est ce qui est géré par l'univers trans, donc c'est très psychédélique, sur les couleurs fluorescentes, des lumières noires, des utilisations de laser, c'est... au niveau visuel, l'univers trans, c'est fait pour en mettre plein la vue, on va dire.
Donc du coup, ouais, on va rester sur une déco quand même assez... un dôme assez bien décoré, ouais. Même sûrement de la déco un peu à l'extérieur, peut-être un peu de mapping. Voilà, on va essayer d'être...
Donc là, justement, sur la déco, vous avez bossé les deux associations ensemble pour mutualiser les moyens.
Ouais, tout à fait. On a chacun un peu de déco. On va mettre ensemble, on va mettre en commun. Et puis, on va embellir ce dôme et le faire à la sauce Taïma et décalé pour cette soirée.
Qu'est-ce que vous diriez justement aux auditeurs là qui nous écoutent, qui sont alors peut-être férus de musique électronique, puisque sur Radio Campus, normalement, il y en a pas mal, donc ils devraient être habitués, mais aussi pour les autres, ceux qui justement ne connaissent pas du tout cet univers et qui auraient envie de venir découvrir un peu ce que vous proposez samedi.
Bon, en premier mot, je dirais venez découvrir. Voilà, parce que bon, il va y avoir différents styles, parce que la techno, ça reste assez large en univers musical. Donc le mieux, c'est quand même de venir se faire son avis. Ceux qui aiment, ils vont aimer, ils vont rester. Ceux qui n'aiment pas, bon, bah, comme disait le collègue Julien, il y a différents pôles où ils pourront se retrouver musicalement parlant.
Ouais, puis j'ai cru comprendre que ça allait être quand même un lieu aussi où on peut venir voilà, se poser, voilà, passer un petit moment, peut-être retourner voir un concert après. Enfin, en tout cas, c'est l'idée hein, de ce que j'avais compris.
Ouais, bah, c'était l'idée des deux pôles, du coup, les deux scènes en alternative. C'était un peu l'idée aussi de faire des endroits où les gens ils viennent bah, du coup, découvrir, apprécier ou pas ce qu'ils ont en face d'eux. Et puis ouais, voilà, de faire donc, ce qu'on appelle on va dire, un chill-out un peu, genre, mettre un peu des canapés, etc. Que les gens ils puissent se reposer, voilà, parler, papoter entre eux, dire si c'est bien ou pas, et puis repartir après sur un bon pied.
Il y a une chose qu'on n'a pas dit non plus, c'est que vous, donc vous allez être, on va dire, prestataire pour le festival, mais vous partagez quand même les valeurs aussi de ce festival. Dites-nous justement, qu'est-ce qui vous...
Bah, complètement, du coup, c'est vrai que nous, bon, après là, je parle du coup pour Système Décalé, mais nous, on a... L'idée à la base quand on a créé ce collectif-là, c'était vraiment pas de faire forcément de la rave, de la free, etc. C'était plus à la base justement de créer un festival pluriculturel, pluridisciplinaire. Et c'est vrai que, par facilité ou pas, on a choisi plus de se diriger vers des événements, entre guillemets, plus alternatifs. Et c'est vrai que bah, du coup être appelé par ces associations pour faire une scène alternative, nous ça nous fait juste super plaisir. Je pense que là du coup c'est mutuel aux deux associations, c'est
ouais,
super
c'est,
cool
c'est de, pareil pour nous
de se retrouver sur vraiment un festoche concret, tu vois, avec un cadre et puis bah, voilà, de donner accès à nous ce qu'on aime à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de venir, parce que bah, c'est vrai que voilà, on n'est pas, c'est pas forcément un milieu accessible directement à tous quoi.
Yes. Bah, merci les gars en tout cas de nous avoir parlé un peu de ce que vous allez proposer donc ce samedi. Je rappelle Scène Dôme du coup.
Scène Dôme, ouais.
Voilà. Ça sera de... Alors la Scène Dôme c'est de 14 à 2h finalement.
Non, la Scène Dôme c'est de 20h à 2h il me semble. Ouais. Et puis du coup, ouais, nous, sinon, on fait une soirée de préchauffe là aussi à l'Hurricane jeudi soir. J'ai oublié de redire ça, qui commencera à 20h. Et du coup, bah, ça sera grosso modo là, à peu près la même chose qu'on proposera samedi soir, avec moins de déco évidemment quand même.
Ça sera un petit aperçu, un avant-goût pour donner envie de revenir nous voir.
Exactement. Ouais, vous faites bien de le dire. C'est vrai que j'avais pas pensé. Du coup, on fait une nouvelle pause musicale et puis on se retrouve juste après pour parler un petit peu de justement tout ce qui vous réunit autour de ce projet, notamment les valeurs et ce que vous avez envie de donner à ce public qui va se présenter donc ce samedi au Quartier Libre Festival sur l'île aux Cars. On écoute donc un groupe qui est programmé ce samedi, Mong et Houston, avec le morceau Jean.
Alors du coup, on a un festival qui est organisé sur une île par 5 associations avec une monnaie particulière. Et finalement, est-ce que vous ne seriez pas en train de nous proposer quelque chose qui ressemble à une utopie?
Oh. Ah, ça y est, c'est la question qui tue. Merci Mélissa pour ce démarrage.
Ah bah attends, ça fait une heure que je la médite alors.
Tu m'avais parlé de questions judicieuses, je vois qu'on y est. Une utopie, bah oui, est-ce que ça serait pas finalement la définition d'un festival que de créer une sorte d'écosystème à un moment donné où les comportements seraient transformés, tu vois ce que je veux dire, à un moment on crée un microcosme, on crée des frontières avec nos super barrières et races, et puis on essaye d'amener de la culture, des arts et plein d'interactions qui changent de l'ordinaire. Donc ouais, il y a quelque chose d'utopique, je pense, dans notre démarche.
Mais c'est de l'utopie qui reste locale, donc à portée de main.
Ah oui, donc pas trop utopique en fait, peut-être accessible, en tout cas accessible et réalisable sur un moment donné, une journée, une soirée, et donc avec une temporalité quoi.
Personnellement, je préfère les utopies réalisables que celles qui sont lointaines et qu'on voit jamais venir. Là, quelque part, dans ce côté utopie, il y a plein de petites choses qui vont continuer au-delà du festival, et peut-être qu'on va amener de plus en plus de gens à s'intéresser à justement ce qui se passe au niveau local, à la fois au niveau musical, mais aussi au niveau des autres initiatives. Ce serait chouette.
Parce qu'on touche quand même, en réalité, on touche quand même beaucoup d'associations locales, déjà de base, et plein de partenaires. Enfin, tout est. Enfin, pratiquement tout le festival est local, donc au final, c'est plus vraiment une utopie maintenant, c'est vraiment devenu réel quoi. Et le fait de, justement comme disait Stéphane, le fait de toucher après le festival d'autres associations, ce serait encore plus mortel, mais du coup là on en touche quand même relativement beaucoup quoi, en fait.
Et puis si dans le temps du festival, ou en tout cas sur le déroulement du festival, on arrive à rentrer dans cette utopie qui est de faire sortir un petit peu les personnes qui seront là du temps, des réalités du monde qui les entoure, bah, je pense qu'on aura réussi notre pari si on peut parler d'utopie au travers de ça, puisque l'idée aussi c'est de proposer justement, comme tout festival ou comme même tout concert finalement, ou toute conférence ou tout débat, c'est bah, de rentrer dans un couloir un peu parallèle finalement, et puis de se dire bah voilà, on se laisse aller, on se laisse évoluer, puis on lâche un peu prise, et puis on vit dans un autre monde le temps qu'on nous le propose. Donc si ça répond un petit peu à ta signification de l'utopie, Mélissa, finalement si on arrive à ça, on aura réussi cette utopie.
Et puis pour changer le monde, il faut d'abord réagir déjà sur le local en fait.
Oui, c'est montrer aussi que même à notre échelle, bah, c'est possible. Ouais. C'est possible de faire ces événements-là, et c'est possible de faire profiter à tout le monde, et que voilà.
Bah, voilà. Donc finalement, c'est une utopie avec un effet rebond, puisque vous comptez bien que ça se diffuse. Et justement, pour que 5 associations tiennent ensemble sur un même projet, parce qu'il y a quand même, vous avez pu détailler toutes les choses qu'on pourra voir dans ce festival, on imagine bien, pour que ce ne soit pas de la chaux sans sable, il faut bien qu'il y ait un liant. Alors est-ce que justement vous pouvez nous parler un petit peu de ce liant, de ces valeurs qui vous sont communes? Qu'est-ce qui fait que ça tient ensemble en fait?
Je dirais que déjà de base, on est, enfin moi pour l'association autonome que je représente ici, ce serait partir par rapport de l'IUT carrière sociale que l'on fait, et ça on pourrait dire que c'est vraiment la base et le lien qui nous a tous rassemblés, que ce soit par rapport au décalé, que ce soit par rapport à Wabam, et après bah la Gabar qui a un lien avec Wabam, et Radio Campus qui bah forcément qui est par rapport au campus de l'université François Rabelais de Tours. c'est voilà, enfin je dirais que c'est le lien, c'est l'université plus précisément. On peut peut-être faire un lien plus précis par rapport aux carrières sociales, mais
ouais, c'est comme s'il y avait une racine commune, et puis et cette racine commune nous a appris ce que c'était que les valeurs de l'éducation populaire, et que finalement l'éducation populaire, il y a comme une visée utopique. Pour revenir sur ta première question, c'était on nous inculque des valeurs, en tout cas on nous injecte de la matière à dire ouais, regardez le monde tel qu'il est aujourd'hui, le rapport qu'on entretient à l'argent, le rapport qu'on entretient avec la nature. Est-ce qu'on peut pas questionner ces éléments-là? Et puis, comment on fait finalement pour sensibiliser les gens à ça, quoi? Parce que si on a des préoccupations aujourd'hui dans notre monde, hein, clairement, hein, je pense que c'est, tu vois, quand on parle d'écologie, quand on parle de, tu vois la température, les cyclones qui se développent, les trucs, on comprend plus trop comment ça se passe. Et là, on se dit, bah ouais, il y a peut-être un souci, comment on malmène notre planète, alors que notre planète, c'est celle qui nous héberge. Et puis, pourquoi on parle de croissance, alors que finalement, on vit dans un monde limité et que la croissance est illimitée. Tu vois, il y a comme des injonctions paradoxales qu'on nous envoie dans la tête, et comment on les traite, ces messages-là. Et
c'est bonus, 3 points.
Game over. Non, mais dans cette démarche-là, nous, on se dit, bah voilà, à mon échelle, à ma petite échelle, avec mon peu de pouvoir que j'ai, comment j'essaye d'impulser une dynamique, comment j'essaye d'impulser des réflexions sur bah voilà, le rapport à l'argent et le rapport à la nature. Moi, je pense que c'est deux préoccupations qui sont majeures, en tout cas sur l'événement qu'on propose là. Et puis après, on y met de la musique, on y met du festif, parce que ça rassemble les gens, et le rassemblement de gens fait que c'est un contexte favorable pour amener ces réflexions là, quoi.
C'est une forme militante.
Ouais. Enfin, voilà, c'est ce que je voulais entendre, pardon.
Ouais. Ouais, il y a une forme de identité dans tout ça.
Comme dit Valérian, c'est vrai qu'il y a tout un côté, les valeurs sur lesquelles on se retrouve, mais finalement le lien, c'est l'humain. On a envie de faire quelque chose, on trouve des gens qui nous ressemblent, avec lesquels ça passe bien, on essaie de construire un truc qui va pas être l'idée de chacun, mais qui va être une idée différente et encore mieux au final. Et on le fait ensemble, et ça marche toujours comme ça, et en tout cas ce qui marche, ça marche toujours comme ça.
Mais je crois que là tu touches quelque chose qui est hyper important par rapport à ce que tu évoquais, Mélissa, au travers des valeurs. Ça veut dire que déjà, je pense que la première chose qui fait que, enfin, qu'on a réussi à se démontrer, c'est que au travers d'une certaine forme de solidarité, parce qu'il faut de la solidarité entre tous les acteurs qui ont monté cet événement-là, et ben ça fonctionne, qu'on peut en unissant les forces arriver à créer des choses qui semblaient, comme on le disait il y a quelques minutes, qui semblaient insurmontables au début. Donc c'est aussi démontrer que bah oui, c'est possible. Voilà, tout ça c'est possible. Et puis encore une fois, je rejoins aussi Valérian sur le côté éducation populaire. Sur comme on disait tout à l'heure, on propose des conférences, on propose des débats. C'est aussi une autre forme d'information. C'est-à-dire qu'on a aussi cette idée peut-être d'informer sur différents points, sur différents sujets, et d'une manière différente de la manière dont l'information est traitée aujourd'hui au travers de certains médias ou certains mass médias. Ça veut dire que là, on va aller au fond des sujets. On veut aussi en tout cas, ils vont être traités d'une manière différente. On peut croiser festif et informatif. C'est pas un souci, ça. Donc c'est aussi peut-être démontrer ça veut dire que l'information, c'est pas uniquement quelque chose de froid et de carré. Voilà, les connaissances, elles sont pas uniquement au travers de ce qu'on peut voir dans ce qui est accessible à tous. Voilà, donc là, on est sur quelque chose qui est accessible à tous, en tout cas sur le territoire sur lequel on est. Mais c'est une forme parallèle d'informer les personnes, et de manière, je l'espère et je pense en tout cas, plus approfondie et plus réfléchie.
Donc vous êtes aussi un lieu de transmission de savoir et d'apprentissage.
On espère.
Wow. Voilà. On est l'école.
Oui, ça fait partie des ambitions. non, mais l'école est différemment, quoi.
On a utilisé le format festival, et je pense que c'est un très bon format pour toutes ces idées et toutes ces valeurs. Je pense que c'est aussi un format qui s'approprie pour, comme tu disais, un lieu de connaissance et de savoir.
Mais alors, comment vous avez imaginé les choses? Parce que finalement, un public familial et un public étudiant, en soi, ça n'a quand même pas grand-chose à voir.
Raison de plus pour les mettre ensemble dans un même lieu, pour voir qu'est-ce qu'il en sort.
Oui, justement.
Mais je ne suis pas si sûr que ça n'a rien à voir. Ouais. Je ne suis pas si sûr que ça, en fait. Pour plein de choses, parce que je trouve que, justement, c'est aussi un peu l'idée de décloisonner. L'intergénérationnel, ça existe. Ça fonctionne quand on propose des choses qui sont fédératrices. en tout cas. Et puis après, je rentre peut-être dans un schéma qui est très terre à terre, mais je sais pas, le père de famille, il a pu passer par la fac, il a pu être étudiant aussi, donc il sait ce que c'est. On peut discuter avec quelqu'un qui a 25 ans de moins que soi, on peut discuter avec quelqu'un qui a 30 ans de plus que soi. Voilà, et puis, enfin, si on rentre dans là-dedans. Je parle peut-être pour ma pomme, mais j'ai 15 ans de plus que certaines autres personnes qui sont parties de l'organisation et pourtant ça a très bien fonctionné. C'est pas pour autant qu'on n'a pas pu discuter, qu'on s'est retrouvé sur plein de choses, sur plein de valeurs, quoi. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas de raison que ça soit possible entre nous, que ça soit pas possible à l'extérieur dans ce qu'on propose.
Oui, je suis d'accord. Et puis surtout, on veut casser aussi les barrières. On ne fait pas qu'un festival de musique, on ne fait pas qu'un festival de cirque, on ne fait pas qu'un festival de jeux. On a décidé de faire un festival quartier libre et voilà. C'est pour justement pour pouvoir que tout le monde soit, pour que tout le monde vienne, tout le monde trouve son compte et que voilà, enfin ça devrait être à portée de tous, et même que ce soit des familles, des étudiants, bah, on a tous on est tous ici et on peut tous aimer la même chose. Et puis même si t'aimes pas forcément un autre truc, tu peux aimer le spectacle de cirque d'à côté plutôt que le concert d'électro en face. Et voilà, c'est ça qu'on veut donner l'opportunité de voir. Et même si tu dis j'aime pas ça, viens écouter avant de le dire, quoi.
Ouais. Non, il y a quelque chose, juste pour finir, c'est un peu la croisée des mondes, quoi. Comme tu dis, je pense que tu fais un bon constat enfin en tout cas ta question induit ça, c'est qu'il y a un fossé générationnel dans notre société, et que moi en tout cas, ouais, c'est ça, je trouve qu'il y a vraiment trop de fossés. Sous prétexte que t'as 50 ans, tu vas pas fréquenter des gens de 20 ans. Et dès lors que ça se passe, là, ça peut poser problème ou ça peut questionner. Et puis, on est dans de la méfiance, on est dans des trucs qui sont de l'ordre d'énergie un peu négative. Et là, on voit que rien que le festival, ça rassemble des gens qui ont entre 18 et 45, aller pour voir large, dans l'organisation. Et on se rend compte que ça match à fond, quoi. Et que juste rien que cet exemple-là, ça illustre que ce fossé générationnel, il peut être annihilé en l'espace de quelques semaines d'organisation commune. Et sur le festival, l'enjeu, c'est pareil. C'est de reproduire le mécanisme qui s'est passé dans l'organisation même de ce festival.
Alors évidemment, on a envie de savoir si ce projet, vous disiez tout à l'heure, c'est une première édition. Évidemment, on aimerait savoir si ça va continuer. Et si ça continue, comment est-ce que vous pensez que ça peut perdurer? Est-ce que vous pourriez imaginer un fonctionnement qui peut-être s'approcherait, disons, d'un lieu qui, je crois, est partenaire, c'est le 37e parallèle? Ils ont une gérance particulière, en fait, c'est 9 ou 10 compagnies qui sont indépendantes, mais qui fonctionnent en même temps. Est-ce que ça pourrait être un fonctionnement qui pourrait vous intéresser pour que continue ce projet?
Eh ben écoute, sur le partenariat qu'on s'est lancé avec le 37e, là, c'est finalement de réaliser notre chantier participatif.
D'ailleurs, je suis désolé, mais je voudrais juste faire un énorme big up à toutes les personnes qui bossent sur le 37e parallèle.
Ouais, actuellement,
voilà. Chantier collectif. J'ai vu que ça m'y fait penser. On parle de la structure du 37e parallèle. Un gros big up à tous parce qu'ils font un travail de ouf. Et voilà, ils vont nous sortir des choses. Vous allez voir ce site, il va être magnifique.
Merci au 37e parallèle, d'ailleurs, de nous prêter aussi le...
Yes, et puis au CFA de Tours aussi, là, qui se mobilise tous les soirs à 10-20 jeunes du CFA qui ont entre 14 et 20 ans et qui se mobilisent pour faire des tonneaux lavabos, pour faire de la signalétique, pour faire des petites choses comme ça, et c'est top comme participation. Donc en fait, on voit que ça accroche à fond et qu'il y a vachement de sens. Donc le 37e, ok, c'est un site qui vient de s'ouvrir, qui se lance sur une nouvelle dynamique, et c'est un peu excentré. Donc je pense qu'eux, ils ont des projets, donc on sera à l'écoute et on se rapproche d'eux. Après, je pense que là, c'est un peu précipité de voir l'après au vu du fait qu'on n'a pas vécu le pendant. Donc on va se concentrer d'abord sur ce festival là et de voir là, c'est un peu l'administrateur qui parle, l'équilibre budgétaire, si on l'atteint. Mais non, mais c'est vrai, parce qu'il y a un moment donné, c'est ça le problème, c'est que l'argent, c'est le nerf de la guerre, et que on est obligé de se confronter aux contraintes économiques. Et donc, si on a l'équilibre budgétaire et qu'on a 800 personnes sur le site, voilà, je balance des bails, on sera content. Et la dynamique qui s'est forgée au travers de ces derniers mois, est-ce qu'on la reconduit? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont motivés à travers ça, mais rien n'est défini pour le moment. Donc en fait là, Mélissa, du coup ta question, je pense qu'on peut pas. Non mais c'est vrai, en toute honnêteté, on peut pas y répondre parce que il y a plein de petites choses qui ont germé, mais voilà, on peut pas aller plus loin. On peut pas aller plus loin.
C'est vrai que plus simplement, là, on a tous la tête dans le guidon et on y a la date du 7-10 là qui arrive.
Voilà. Et on est tous à fond
vers la deadline. Ensuite, c'est vrai que tout ce qu'on a construit ensemble comme relation, comme lien de connaissance, etc., ça, c'est sûr qu'on va la continuer. Dire que ça va réussir à former quelque chose d'autre ensuite, c'est en effet un peu trop tôt pour le dire, mais si jamais ça marche bien, il n'y a pas de raison qu'on se dise « Allez, on en refait l'année prochaine
ben, ». Allez, on parle de première édition, donc ça a du bien l'idée que, dans l'idéal, on souhaiterait... peut-être pas pérenniser, mais au moins reconduire l'événement. Mais encore une fois, c'est vrai que c'est très virtuel tout ça. C'est très, en tout cas, enfin voilà, on peut malheureusement, on en saura beaucoup plus dimanche. Voilà, sur la faisabilité d'éventuellement reconduire le projet. Mais voilà. Donc c'est pour ça, venez soutenir cette initiative locale, cette initiative culturelle locale le 7 octobre sur l'île Oka. En plus, c'est pas cher.
Si on produit quelque chose, ouais, on le fera beaucoup plus tôt.
Bah ouais, ça c'est clair. Et 5 euros en pré-vente, hein, si vous allez sur le site du festival, 8 euros sur place. Donc voilà,
ça se vend comme des petits pains là actuellement. Dépêchez-vous quoi.
Ouais, enfin, dépêchez-vous. Ouais. Parce qu'il n'y a pas, en plus, il y a pas en pré-vente, on n'a pas la jauge maximum. Donc il faut y aller quoi. Il faut y aller, vous allez sur le site du festival, c'est quartierlibrefestival.com, c'est ça ?
www.quartierlibrefestival.com.
Et l'après-midi, en prix libre sur le.
Voilà, exactement. 14h à 18h, c'est entrée libre, donc si vous voulez donner un peu de sous, vous en donnez, si vous voulez pas en donner, vous en donnez pas, et puis voilà, c'est comme ça, hein. C'est aussi, ça reste un petit peu dans la dynamique aussi, enfin dans l'esprit en tout cas, et les valeurs qu'on veut défendre, comme on évoquait tout à l'heure.
C'est pas beau ça, ils font le boulot à notre place. en tout cas, l'impression que c'est une belle aventure humaine avant tout, quoi qu'il arrive.
Ouais, depuis le départ en fait, c'est vrai que quand on s'est rencontrés, on n'a pas dit le nom tout à l'heure, mais je sais pas pourquoi on l'a pas dit.
Le court-circuit. Si, Valérian l'a cité tout à l'heure.
Le court-circuit, enfin, déjà, c'est un lieu auquel nos valeurs déjà se rapprochent.
Citer largement, puisqu'en plus, il est proche de nos opinions, de nos valeurs. Et puis, on a même des membres d'une émission à Radio Campus Tour qui s'appelle Au Champ des Possibles, qui sont très liés à ce lieu. Donc, il n'y a aucun problème.
Le lieu, il correspond à une des choses qu'on défend sur le festival, ça veut dire, donc ça s'appelle le court-circuit, nous on défend un petit peu aussi les circuits courts.
Exactement,
justement.
Ça. Exactement.
Voilà.
Ouais, et puis voilà, bon, si on revient à la question, oui, c'est vraiment une aventure humaine depuis le départ, avec certes, il y a eu des petits couacs, forcément, comme toute organisation, mais c'est vrai que à chaque fois qu'on est au téléphone avec l'un d'entre nous, c'est hyper drôle.
C'est du love, quoi.
C'est du love. On s'amuse.
Même
les réunions. C'est une forme de plaisir aussi derrière de monter cet événement, et d'autant plus avec des personnes formidables.
On s'enrichit, on s'enrichit les uns les autres.
Carrément.
Ouais.
Ah, mais carrément, ouais.
Parce qu'il faut se dire aussi qu'on est. Il n'y en a aucun d'entre nous qui est professionnel là-dedans. En fait, on est tous amateurs de monter un festival. Même si on en a déjà monté, là je prends l'exemple du coup du Wabam, on en a déjà monté deux, mais c'est pas parce qu'on en a monté deux qu'on a toutes les billes pour monter un festival. Là on en a pris encore plein de choses qui sont importantes à savoir quand on monte un festival, et puis voilà, on apprend avec le temps et avec les autres, c'est de la logique, c'est des mathématiques, c'est beaucoup de choses.
Ouais, en tout cas, on réalise un petit peu ce que c'est qu'un événement de cette ampleur. Ouais. C'est, je le répète, j'ai déjà dit au début d'émission, mais c'est un boulot énorme. Et ça nous apprend plein de choses. C'est vraiment un apprentissage qui est hyper intéressant. Et puis, alors, juste quand même, peut-être qu'on peut le signer, parce que des fois, des personnes pourraient penser le contraire, mais il y a zéro salarié dans le quartier libre.
Ouais,
ça veut dire que voilà, on fait tous ça en bénévolat. On donne tous de notre temps, parfois d'autres choses même que de notre temps, en bénévolat, quoi. Donc, non, je ne rentrerai pas dans les détails.
C'est vrai qu'en plus, certains d'entre nous ont quand même un travail, certains sont étudiants, donc c'est vrai que des fois, on peut peut-être laisser un petit peu de côté certaines choses de notre travail, mais en tout cas, on est hyper motivés avec ce projet, et je pense que c'est ça qui fait notre force, c'est ce projet-là.
Et encore une fois, donc pour revenir, je reviens juste sur le sujet hein, des générations. C'est effectivement même au sein de l'équipe, hein, on va effectivement de l'étudiant de 18 ans au père de famille, quoi. Donc voilà. Et malgré tout ça, les choses fonctionnent et le dialogue existe sans problème. Et c'est un dialogue constructif.
Ouais.
Voilà.
On est sous le choc de toutes ces réponses. Merci en tout cas à vous. Il est l'heure déjà de nous quitter.
C'est vite tout ça.
On peut parler pendant 3 heures si vous voulez.
Ouais. Alors je vous remercie.
Merci à vous de nous avoir accueillis. Vraiment, ouais. C'est super cool.
Merci.
Il y avait Héloïse, c'est ça ? Héloïse, Louis, Stéphane, Jérémy, Valérian, Julien et Arthur, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Donc certains nous ont quittés avant, mais en tout cas, je vous remercie vraiment d'être venus nous présenter les associations qui co-organisent le festival Quartier Libre. Qui aura lieu, on le rappelle une dernière fois à nos auditeurs, le samedi 7, ce samedi 7 octobre.
Oui.
Et j'en profite aussi pour vous dire qu'à cette occasion, il y aura une émission spéciale Radio Campus Tour en live de là-bas, de l'île aux Cars. Ouais. Voilà, donc rendez-vous à tous. Vous serez là hein, samedi, j'imagine. Oui, voilà.
Je sais pas si je vais venir.
La question bête pour finir.
J'ai aquaponé.
Je suis pas là, c'est qu'il y a eu un gros problème. Quelque
part. Voilà, exactement.
Je crois que j'ai poné nain aquatique, mais je suis pas sûr.
Bon, on se retrouvera en tout cas samedi. C'est l'heure de l'agenda de Julie, donc je vais vous chasser.
On peut faire l'agenda si vous voulez, hein, le 7 octobre. Non, le quartier libre.
Non, mais venez, le 7 octobre, c'est
et le 5. Voilà. Et le 5 octobre aussi à l'Hurricanes, on peut faire aussi l'agenda.
Le
6,
ouais.
Le
5 octobre à l'Hurricanes, donc avec Taïma Project et les décalés, et puis le 7 octobre sur l'île aux Cars. Voilà, c'est un nouvel événement culturel dans ta ville. Yeah, soutiens.